Ce matin, le sujet, c'est « Un sauveur vous est né ». On vient de chanter, après avoir un chant, entre autres. On va regarder ces choses-là ensemble. J'ai bien aimé regarder ces choses. Un sauveur nous est né. Hein, celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, et qui tient toutes choses dans ses mains. Il s'est fait homme. Il s'est fait tout petit pour nous sauver. C'est merveilleux. On peut vraiment remercier le Seigneur pour ça. On va lui remettre ça entre ses mains. Merci, Seigneur, pour cette belle soirée hier qu'on a eue, toutes les gens qui étaient là. Tu as parlé à leur cœur. Merci que tu attires tous les hommes à toi, Seigneur. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu es venu pour sauver les pécheurs, puis on est tous des pécheurs. Fait que, guide-moi, Seigneur, dans ce message ce matin pour que je puisse le partager à la gloire de ton nom. Amen. Luc, chapitre 2. Le verset 11 à 12, on va lire dans la Semeur. Il est écrit, « Un sauveur vous est né. » C'est le titre que j'ai pris là. Aujourd'hui, dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Vous savez, dans les pays où il y a de la royauté, il y a des pays qui ont encore de la royauté, il y a 44 États, je pense, c'est encore des rois, et des reines qui sont là. La naissance d'un enfant royal, bien, c'est tout un événement. Quand ça arrive dans ces pays-là, là, et le monde sont contents qu'un petit enfant vienne de venir au monde, hein? Surtout quand il s'agit d'un bon roi, une bonne reine, le peuple se réjouit de l'attente de cet enfant-là parce que le royaume va continuer à se prospérer. Hein, il va continuer à grandir. Fait que les gens sont vraiment heureux. On voit ça hein, à la télévision, des journaux. Avec un petit enfant royal de même vient au monde. Ça, il mentionne un petit peu partout. Hein, et il s'organise des banquets. Puis les gens ils ont hâte hein, de le voir. Hein, s'ils peuvent nous le montrer, on a hâte de le voir. On l'attend. Donc, c'est ça qui se passe un peu dans ce temps-là. Mais la nuit de naissance de Jésus, c'était différent un petit peu. Les anges ont déclaré que le Messie était né. On vient de voir ça au verset 11. Hein? Les anges ont déclaré que le Messie était né. C'est Emmanuel. Hein? C'est Dieu qui venait de venir au monde sur terre. Donc, c'était une bonne nouvelle pour tout le peuple. Parce que Jésus apporte l'espoir au monde. Jésus apporte l'espoir au monde. C'est la meilleure nouvelle que le monde pouvait recevoir. Jésus est décrit comme le roi des rois. Emmanuel qui était avec nous. On peut-tu avoir une meilleure nouvelle que celle-là? Impossible. Impossible. Hein? C'est la meilleure nouvelle qu'on pourrait avoir. Jésus est l'espoir des nations. On a chanté ça il n'y a pas longtemps. Jésus est l'espoir des nations. Ça, c'est écrit dans Isaïe 49, 6. Jésus n'est pas venu juste pour Israël. Il est venu pour toutes les nations, pour chacun de nous, pour chacun de nous. Et sans Jésus, la vie serait que désespoir et chagrin. En mourant, personne n'entrait dans la présence de Dieu. On s'est tous condamnés. C'est Jésus le Sauveur. On voit ça, entre autres, dans Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a personne d'autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devrions être sauvés. Donc, Jésus est venu sauver le monde de ses péchés. Ça, si vous voulez vérifier ça, c'est dans Jean 12, 47. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Jean 11, 25. C'est un acte d'amour et de grâce qui est offert à chaque personne sur cette terre. Quel beau cadeau. Hein? Jean 3, 16 nous le mentionne aussi. En lisant la Bible, nous découvrons qu'il y a un contraste, il y a une différence entre la naissance d'un enfant royal comme qu'on a vu tantôt un petit peu, hein, des fêtes, puis toutes ces choses-là, c'est annoncé partout. Il y a une différence entre la naissance d'un enfant royal et la naissance de Jésus. Pourtant, c'est lui le roi des rois. C'est lui le roi. C'est plus grand qu'un enfant royal encore, qu'un petit bébé qui vient de naître. Hein. C'est lui le roi des rois. On est saisi par la simplicité et l'humilité de l'avenue du roi des rois. C'est vraiment une grosse différence. Au lieu d'un palais royal, Jésus aurait, pensez-vous qu'il aurait pu naître au monde dans un palais royal? C'est sûr, hein, le plus beau des palais. J'ai sorti une photo d'un palais royal. Pensez-vous que Jésus aurait pu naître au monde dans un palais comme ça? C'est lui le roi des rois. Est-ce que c'est ça qu'a fait Jésus? Il ne nous monte pas dans un palais royal, mais dans un étable. Une différence, hein? Une grosse différence, hein? Un étable, c'est un bâtiment pour le bétail. Et la mangeoire, c'est rude, ça, hein? Y a-tu bien des mamans qui espèrent mettre leur enfant au monde puis le mettre dans une crèche? La plupart des mamans aimeraient mieux mettre nous au monde un enfant dans un bâtiment comme ça. Hein. Mais Jésus a choisi une crèche, un bâtiment pour les animaux. Pour l'accueillir, aucune grande cérémonie royale. Rien de ça. Même sa naissance a pu perçue comme une menace pour les autorités. Les autorités civiles et puis les autorités religieuses. Ils avaient peur de perdre leur place. Ils étaient considérés comme une menace en plus. C'est spécial. Seuls ses parents, Marie et Joseph, et des gens pauvres qui étaient là, puis quelques bergers qui sont venus pour adorer. Plus tard, on a vu des mages d'Orient. Donc, Jésus est venu humblement, non pour être servi, mais pour servir. C'est pour cette raison-là qu'il est venu. Jésus, on peut dire, est entré par la petite porte. Hein? Il n'est pas rentré par la grande porte royale, puis ils n'ont pas mis devant tout le monde, « Regardez notre enfant ». Jésus est rentré par la petite porte, hein? Celle de l'humilité, celle que les serviteurs employaient pour faire leur service. La petite porte à l'arrière, la petite porte de côté. Humblement, humblement. Voilà comment Jésus a agi. Si Jésus était né dans un palais, seuls quelques privilégiés auraient pu l'approcher. Hein? Mais naître dans une étable, tout le monde pouvait venir. Tout le monde pouvait venir. Les démunis, les gens pauvres de la région, les rejetés, c'est ça qui est. Même les riches aussi pouvaient aller voir Jésus. Tout le monde. Mais dans le beau palais qu'on a vu tantôt, là, pas tout le monde qui aurait pu rentrer là. Lisons Zacharie 9:9. Il est écrit, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit de Nanès. » Donc, Jésus n'est pas seulement né humblement, mais il a vécu humblement. C'est toute une chose aussi, là. Hein? Il a eu ça jusqu'au bout. Il a lavé les pieds de ses disciples. Pour vraiment que tu t'humilies pour faire ça. Il pleura devant la tombe de Lazare. Hein, on se rappelle, on voit ça dans Jean 11. Hein? On a examiné ça. Jésus avait des émotions. Il restait pas froid devant le malheur des autres. Il se tait devant ses accusateurs, dans Matthieu 27, 14. Quand il y a des gens qui nous accusent, on est porté à se défendre, mais Jésus n'a pas parlé. Il pardonne à ceux qui le crucifient. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Donc, Jésus n'est pas venu pour être admiré, mais pour nous offrir son amour et sa grâce. Lui, le grand Dieu, qui a tout créé, s'est abaissé à la hauteur de l'homme pour nous parler. Dieu veut nous parler. C'est-tu une belle chose, un peu? Dieu veut nous parler. Samuel, il a dit, et que le Seigneur l'a adressé la parole, « Parle, car ton serviteur écoute. » On devrait agir de nous-mêmes, nous autres aussi. Hein? Dieu veut nous parler. On devrait dire, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Noël, c'est Dieu qui se penche vers nous et nous dit, « Je veux te parler, mais à la hauteur de ton cœur. » Jésus s'est penché à la hauteur de notre cœur parce que la tête, elle ne comprend pas, souvent. Il faut ouvrir notre cœur, un cœur puis ajouter foi pour entendre Dieu nous parler. Sans ça, on ne l'atteint pas. On est tous pris par toutes sortes d'affaires. Un peu comme un berger qui descend dans un ravin pour chercher sa brebis qui est perdue. Il nous donne cet exemple-là, Jésus, dans sa parole. Il nous aime à ce point-là. Un roi conquérant aurait imposé sa volonté, mais Jésus attire par l'amour et par le don de soi. C'est de même que Dieu veut nous attirer. Il ne veut pas forcer personne, il nous attire par son amour. Dans Philippiens 2,7, un peu comme pour Jésus, il est écrit, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc, il n'y a pas personne qui l'a dépouillé, hein, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc, naître en toute humilité, c'était un choix d'Emmanuel. Dieu avec nous. Le Seigneur voulait nous révéler son cœur, puis il voulait s'approcher le plus possible de chacun de nous. Donc, il s'est rendu accessible pour les petits, pour les pauvres et les grands de ce monde. Et Jésus demeure toujours disponible pour écouter, pour prendre soin de chaque personne. Il est prêt, il est disponible à nous entendre. Mais c'est à nous autres à être disponibles et ouvrir notre cœur. Être prêt à l'écouter. Jésus est disponible, mais sommes-nous vraiment disponibles à l'écouter? Donc, le roi des rois naît sans palais, sans couronne et sans armée. C'est spécial, hein? Il instaure un royaume qui est fondé non sur la domination, mais sur la paix, sur la joie, par l'Esprit-Saint. On voit ça dans Romains 14 et 17. Noël annonce à chaque année que Dieu s'est fait homme. Partout à travers le monde, on voit que Noël est annoncé. Hein? Partout à travers le monde. C'est annoncé. Moi, Michel l'a touché un petit peu hier à ce point-là. Partout sur la planète, Dieu est annoncé que Jésus est venu pour donner sa vie pour nous autres. Un peu comme un sonneur de trompette, je dirais. Ça sonne à grandeur de la planète, à toutes les ans, pour rappeler que Jésus est venu au monde pour nous sauver. Vous savez, dans le temps, il n'y avait pas de trompette comme nous autres, on a aujourd'hui. Ils appelaient ça un chauffard. Un chauffard. Vous savez, c'est quoi un chauffard? Parce qu'il y en a qui savent, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas une trompette comme nous autres. Quand les murs de Jéricho ont tombé, c'est marqué, ils sonnaient de la trompette. Mais ce n'est pas une trompette comme qu'on a aujourd'hui. Il appelle ça un chauffard. C'est une corne de bœuf qu'on creusait, qui faisait une trompette avec ça. Pour annoncer. Aujourd'hui, on peut dire que ça sonne encore grandeur de la planète, que Jésus est là, puis vous amenez un peu une grosse C'était même dans l'Ancien Testament des trompettes. Le Seigneur va revenir au son de la trompette. Je ne sais pas si ça va être un chauffard, mais ça va être au son de la trompette. Mais Noël annonce ça, hein, que Jésus est venu au monde. Le mot Noël n'est pas dans la Bible. Il vient du latin natalis. Il signifie jour de naissance. Donc, une occasion pour rappeler au monde entier la naissance de Jésus, le Sauveur du monde. On va lire dans Isaïe, chapitre 9, le verset 5. Isaïe 9, 5. Un beau verset. Ceux qui, disent, « Noël, pourquoi qu'on fête ça? » C'est pas écrit que Jésus est né au monde le 25 décembre. Mais c'est bien d'avoir une date qui nous rappelle au monde entier qu'un Sauveur est né. On cherche à pas oublier l'anniversaire de la naissance de notre femme. Hein. Si on oublie, des fois, on peut se le faire rappeler. On n'oublie pas l'anniversaire qu'on s'est marié. On veut rappeler des jours de même. Mais c'est normal qu'on rappelle. Je pense qu'on prenne un jour pour souligner que Jésus est venu sur terre pour donner sa vie pour nous autres. Isaïe 9, 5. Car un enfant est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus, quand on voit comme qui est Jésus, c'est Dieu. Hein? Quand il est venu sur terre, c'était un peu comme s'il y avait eu un voile sur lui qui nous couvrait sa gloire. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma gloire sans mourir. Tu vas mourir si tu ne vois telle que je suis. Mais Jésus, c'était un peu ça qu'il a fait. Il a pris, il s'est couvert d'une, on peut dire, de peau. Il s'est fait homme pour qu'il puisse nous parler. Parce que sans ça, on n'aurait jamais été capable de voir Jésus dans toute sa gloire. On serait mort à l'instant même. Jésus au ciel, en tant que Dieu, il recevait toute la gloire et l'honneur qui lui étaient dus. Car tout a été créé par lui et pour lui. Sa souveraineté s'étend dans tout l'univers. Pensez à un être qui contrôle tout l'univers. Il dit, je tiens l'univers dans mes mains. Penseriez-vous qu'on serait capable de voir un être aussi puissant que ça par nos petits yeux? On mourrait un instant. Et Dieu, il s'est recouvert de chair. Il s'est fait homme pour descendre jusqu'à nous, pour se révéler à nous. Parce que sans ça, on serait jamais capable de voir Dieu. Il est écrit que Dieu habite une lumière inaccessible. On ne peut pas voir Dieu de même et vivre. C'est impossible. Jésus, en venant sur terre, n'a pas abandonné sa divinité. Il a toujours continué à être Dieu, mais il a renoncé à venir dans toute sa gloire. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est impossible. C'est un privilège que Dieu nous a donné. Il s'est abaissé par amour, un dépouillement qui révèle la grandeur de son cœur. Les grands, c'est assez rare qu'ils vont s'abaisser. Mais Dieu, c'est le grand, le plus grand que tout. Il s'est abaissé. Cela nous invite à contempler notre Dieu qui ne s'impose pas, mais qui donne avec amour. Jésus a agi un peu comme un roi qui retirait ses habits royaux pour revêtir les habits du peuple. Si ça se faisait sur terre, un roi qui arriverait quelque part avec son grosse armée habillé comme un roi, dans une petite maison pauvre, le monde aurait peur de lui parler. Il aurait peur de lui parler, mais Jésus, il a fait un peu ça. Il s'est défait de sa gloire pour être capable, qu'on soit capable de lui parler, de l'approcher. Noël rappelle à des milliers de gens la venue du Sauveur sur terre. Certains vont laisser leur cœur être touché par l'amour de Dieu à Noël, mais il y en a d'autres qui vont endurcir leur cœur, hein. Ils vont rester indifférents. Mais Dieu attire tout le monde à lui. Tout le monde à lui. Mais il y en a qui restent indifférents. Pour Noël, pour les autres. On va regarder ça un petit peu dans les prochains versets. Là. Qu'en est-il de nos lendemains de Noël? Lisons deux versets. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps après Noël? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Luc 2, 20. Luc, chapitre 2, le verset 20, il est écrit, « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. » Voyez-vous comment ça se passe? Hein? pour que tout ce qu'ils avaient attendu et vu, et qu'il était conforme à ce que leur avait été annoncé. Matthieu 2, 12, on voit les mères à cet endroit-là, ici c'est les mères, puis divinement avertis ensemble de ne pas retourner vers Hérode, et regagnèrent leur pays par un autre chemin. Qu'en est-il donc de nos lendemains de Noël, alors que chacun retourne à leur occupation? Les membres de la famille rentrent chez eux. Et là, on revient à la routine de notre travail. Hein? Bon, les fêtes sont passées, on recommence. Est-ce que c'est comme ça toujours, en au lendemain de Noël? On oublie Jésus. On recommence la job. On recommence notre routine. Enfin, c'est passé. C'est-tu comme ça que ça se passe, qu'il devrait se passer après Noël? Allons-nous revenir à notre vie seulement comme avant Noël? Ou bien Noël va avoir allumé un feu dans notre cœur? Période de Noël, chaque année, Dieu nous rappelle ça. Ça devrait nous stimuler à la reconnaissance. Hein? Noël arrive, on devrait réallumer un feu dans notre cœur. L'objectif de Noël, je pense que c'est d'avoir de la reconnaissance pour un sauveur qui est venu. C'est ça qu'on devrait allumer dans notre cœur. Les bergers sont retournés à leur travail, mais en louant Dieu. En louant Dieu. Ça a changé leur vie, les autres-là. Ça a changé leur vie. Ça a complètement transformé leur vie. Marie et Joseph ont fait face à leur responsabilité de parents, mais avec joie. Ils étaient tout heureux. Marie, on voit comment il s'est écrit des passages... comment elle était heureuse de faire la volonté de Dieu. Leur vie fut transformée après Noël. Sûrement aussi que les mages, leur vie fut transformée quand ils ont retourné dans leur pays. Sûrement. Moi, quand je pense aux bergers qui ont retourné chez eux à leurs moutons, là, il me semble que je les vois sauter à travers le village puis s'en allant, sauter de joie. Je pense que c'est le même que ça s'est passé. C'est le même que ça devrait être nous aussi après Noël. On devrait... C'est une occasion de nous rappeler tout le temps la venue du Sauveur. On devra manifester beaucoup de reconnaissance. Après Noël, ben, Jésus a grandi. Hein? Il n'est pas demeuré petit Jésus dans la crèche. On avait une émission cette semaine passée, ça. Il y en a qui font encore, vous savez, des petits Jésus de cire, là. Vous avez vu ça, des petits Jésus de cire? Mais il y en a qui font encore ça. Ils pensent que Jésus est encore un petit Jésus. Mais Jésus n'est pas resté petit, là. En grandissant, c'est marqué qu'il se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Il étudiait, il écoutait, il interrogeait les érudits de son temps. Jésus obéissait à ses parents. Il était soumis à ses parents. Jésus exerça le métier de charpentier. Il a connu la faim, il a connu la fatigue, la soif, toutes ces choses-là. Il n'était pas obligé. Mais il l'a fait par amour pour nous autres. Aussi, il a connu la tristesse envers ceux qui demeuraient incrédules, parce que même ses frères ne croyaient point en lui. On voit ça dans Jean 7, 5. Mais Jésus avait toujours un feu dans son cœur. La Bible a dit qu'il était rempli de compassion. Ça, je vous invite à faire des recherches sur la compassion de Dieu. Vous allez en avoir pour... Vous allez voir comment que Dieu, ça, dans son cœur, dans ses tripes, ça serrait tellement pour nous aider. La compassion de Dieu, c'est terrible. Ça l'a poussé à l'action, à agir pour nous sauver. On lit dans Matthieu 9, 35, comment Jésus agissait. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Quelque chose, hein? Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Voilà ce que Jésus faisait. Tout le temps qu'il était sur terre, quand il commence son ministère, voilà ce qui se passait après Noël. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien à chacun. Nous aussi, on a le privilège de travailler à l'œuvre de Dieu. Hein? De transmettre aux gens qu'un sauveur est né, qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Saisir les occasions. Hier, j'aimais ça parce qu'il y en a beaucoup qui étaient ici. Vous avez invité du monde. C'est merveilleux. Ces gens-là, ils ont pu entendre la parole de Dieu. On peut faire différentes choses pour parler de Noël. La venue de Jésus. Hein? Partager un repas avec quelqu'un. Connaît quelqu'un de la municipalité qui n'est pas riche, on peut lui donner, aller donner un repas chez eux. Et il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider les gens. Une parole, des fois, pour les encourager. Partager aux gens qui ne sont pas tout seuls. Et comme j'ai dit hier, rappelons-nous que les cadeaux qu'on va offrir à nos proches, ces cadeaux-là, ça va s'user. Un jour, peu importe ce que vous allez donner à Noël, vous allez recevoir, un jour, ça va s'user et ça va se ramasser à la poubelle. Hein? Ou ça va être désuet, ça ne marquera plus quelque chose de mieux qui vont remplacer ça. Ces cadeaux-là, ça va tout venir à un moment donné, ça va être fini, ça. Mais celui qui va recevoir le cadeau de Dieu, qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur, ce cadeau-là, bien, va durer pour l'éternité. C'est le plus beau cadeau, hein? Et nous autres, on va se réjouir dans la présence de ces gens-là. Vous savez, le plus beau cadeau, là, n'est pas dans une boîte. Le plus beau cadeau, c'est quand on a Jésus-Christ dans notre cœur. C'est là le plus beau cadeau. Puis c'est ça qu'on peut offrir au monde. On peut offrir un gros cadeau. Ah ben, as-tu vu comme quel cadeau qu'a donné ses enfants, lui? Hey, il a donné moi 1 000 piastres de cadeau. Pensez-vous que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait faire? L'autre personne qui sont pauvres, mais ils parlent à leurs enfants du Seigneur et l'enfant se tourne vers Jésus. On a une personne ici qui sont tournées à Noël là, vers Jésus. François nous l'a conté quelquefois. Et ça peut arriver encore, vous savez ça. C'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de parler de Jésus, puis il l'accepte. C'est pas ce qu'il va avoir dans la boîte qui va être le plus beau cadeau, mais ce qu'il va avoir dans son cœur. C'est un cadeau qui va durer pour l'éternité. Pensez à vous. Vous devez penser à ça. Quelle différence, hein? Imaginez ce que serait Noël si ce n'était pas seulement une date sur le calendrier, mais une journée qui réanimerait la flamme de chacun pour Jésus. Si le lendemain de Noël, le monde aurait tout Jésus dans leur cœur, pensez-vous que ça changerait les affaires? Et chacun serait disposé à pardonner aux gens qui l'aura offensé. Et ça changerait le monde terriblement. Tout le monde serait prêt à pardonner, à marcher dans l'amour comme Jésus a marché. Et il n'y aurait une différence, la planète, ce serait terrible. Hein? On lit dans Luc 3, 11, les gens y agiraient comme ça. Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Tout le monde sera bien habillé. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il y a quand même c'est plus que la moitié de la planète qui n'ont rien à manger, ou presque à rien à manger. Avant, c'était tiers-monde, on disait, mais c'est rendu ça leur montant encore. Mais il n'y aurait plus de ça. Ce ne serait pas juste les riches, les multimillionnaires. Tout le monde mangerait. La planète a fourni la nourriture pour tout le monde. Mais il y en a qui ils s'emparent de ces choses-là pour les autres. Hein? Et quelle différence ce serait si tout le monde aurait Jésus dans leur cœur après Noël. Comment seraient les après-Noël si chacun ouvrait leur cœur à Jésus? Je pense que ce serait comme la chanson de Raymond Lévesque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson-là. Ça dit « Quand les hommes vivront d'amour... » Ça vous le reste. « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Mais nous... » Nous serons tous morts, mon frère. Une chanson québécoise, ça, hein, qui chantait ça. Pour vous rappeler de ça. Hein, vous vous rappelez de ça? Hein? Quand les hommes vivront d'amour, si chacun aura l'amour de Dieu dans son cœur, il n'y aura plus de misère sur terre. Mais on sait que ça n'arrivera pas. On va tous être morts, mon frère. C'est ce qui va arriver. Hein? Ça changerait complètement. Ça ne serait plus une simple fin d'une fête, mais Noël deviendrait une semence de paix durable. Les jours qui suivent porteraient le fruit de l'amour dans chaque personne. Les fruits de l'esprit, dans Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienité, la bienveillance, la maîtrise de soi, les gens vivraient comme ça. On dit, hey, ça serait-tu merveilleux, hein? Ça serait-tu merveilleux? Après Noël, si les cœurs s'ouvraient à Jésus, les rues seraient pleines de gens qui louent le Seigneur. Ce serait merveilleux. Les familles se rassembleraient avec un cœur disposé à chercher l'unité. Quand je pensais à ça, les familles qui chercheraient l'unité, à être unies ensemble. On a une crise de logement au Québec. Pourquoi penser? Chacun veut vivre de son bord. Hein, les parents, ça se divorce. Fait que ça prend leur double de logement. Les enfants ne veulent plus rester à la maison. On s'en va. Ça prend leur double de logement. On n'a plus de logement. Ni en bâtisse, puis en bâtisse. Mais les gens, s'il y aurait Jésus dans leur cœur, ils voudraient vivre ensemble. Ce serait chaleureux. Ils voudraient s'unir. Il y aurait tellement de loyers, le prix des loyers baisserait. Hein? Le prix des loyers baisserait. Les pauvres ne seraient plus oubliés parce que chacun agirait comme Jésus envers les démunis, envers les malades, envers les aveugles et les lépreux. Chacun vivrait mieux et chacun vivrait heureux. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Mais ce n'est pas ça que l'homme veut. Vous savez, les chants et les décorations de Noël qu'on voit partout, c'est beau. Je n'ai rien contre ça, c'est beau. C'est parfait. Mais la lumière ne serait pas seulement extérieure des maisons. La lumière serait dans le cœur des personnes. C'est ça qui serait différent. C'est beau, toutes les belles affaires des guirlandes. C'est vraiment beau, moi j'aime ça. Mais ce n'est pas là, en réalité, que la lumière devrait être. Elle devrait être dans le cœur. Elle devrait être dans le cœur. Et chacun vivrait beaucoup plus heureux, ça aurait plus la lumière du Seigneur dans leur cœur que de l'avoir à l'extérieur. Hein? Titre 2.11. Vous écouterez ça sur Internet, cette chanson-là de Raymond Lévesque. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. J'espère que ça va arriver en 2026. Titre 2.11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, Noël est un jour particulier qui permet au monde de se souvenir de la naissance de Jésus. Une période propice pour réfléchir au récit de la naissance. Prendre le temps de s'arrêter. Même comme ils disent, on doit prendre le temps. Ça, c'est bon durant cette période-là de relire dans les évangiles toute la naissance de Jésus. Il y a un chant qui dit « Rappelle-moi l'histoire. Hein? » Rappelle-moi l'histoire. Il faut se rappeler, lire, relire et méditer tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Sur ses enseignements qu'il nous a donnés. Il faut ouvrir la parole de Dieu et ouvrir notre cœur. Sans la venue de Jésus, la vie n'aurait pas de sens. Il ne resterait que le vide dans chacun de nos cœurs, et on mourrait dans les péchés. Mais grâce à sa venue, il est offert à chacun la possibilité de l'accepter comme son sauveur. Alors, cette personne devient libérée de ses péchés, et les portes du ciel s'ouvrent pour l'accueillir lorsqu'on quittera cette terre. Aucune plus grande grâce ne pouvait nous être accordée. Si notre vie est parfois semée d'embûches, on voit, on a des problèmes. On a vu hier une madame qui était ici, elle a foule de problèmes. J'ai parlé, essayé de l'encourager un peu. Mais on a toujours des raisons de louer Dieu. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Quand on enlève les yeux sur nos problèmes et on met les yeux sur le Seigneur, ça nous aide beaucoup, 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 beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Et je termine par ce verset-là, Luc 2, 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ça, c'est les anges qui chantaient ça. On peut chanter ça, nous aussi, hein? Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Les anges ont glorifié le Seigneur. Nous autres aussi, on est appelés à glorifier le Seigneur à chaque jour. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, que ça nous aide à chanter. Amen.